Le journal avec vous, Julie Paco, bonjour.
Bonjour Hélène, bonjour à tous. Avec la contagiosité du variant Delta, les contaminations de Covid-19 concernent de plus en plus les plus jeunes, les adolescents, mais aussi les enfants. Et si les formes graves sont rares, les autorités sanitaires s'interrogent sur la vaccination des moins de 12 ans. Le Covid et le pass sanitaire étendus aux bars et restaurants depuis une semaine après le rodage, place aux premières amendes. Kaboul, aux mains des talibans, 10 jours après l'offensive éclair des insurgés islamistes. La capitale afghane est tombée hier. Les Afghans installés en France craignent le pire pour leurs familles restées sur place. ONI, depuis 2016, les primaires font leur retour, du moins dans la tête des responsables politiques de gauche comme de droite, nous verrons cela. Et puis l'environnement, l'adolescence, l'ascenseur social en panne, thématique qui s'invite dans la rentrée littéraire.
Une palette d'acteurs à l'affiche, de Karine Viard à Denis Podalydès, de Ramzy à Carole Bouquet ou Monica Bellucci, c'est des duos inédits et cocasses. Les Fantasmes, ça sort mercredi après-demain au ciné. Les frères Fuenquinos au micro Inter à 7h50.
France Inter.
Nos enfants de moins de 12 ans doivent-ils être vaccinés?
Vous vous posez certainement la question à mesure que la rentrée scolaire approche, alors que le variant Delta se montre considérablement plus contagieux. Comment se passera le retour en classe pour les moins de 12 ans? Médecins et autorités se posent la question de leur vaccination et attendent les conclusions des essais cliniques menés par les laboratoires. Véronique Julia.
Un virus plus contagieux, c'est un virus plus contagieux pour tout le monde et donc aussi pour les enfants. Pour l'instant, les transmissions se font très majoritairement dans le cadre familial. Mais que va-t-il se passer quand les écoles vont rouvrir? Le pédiatre Robert Cohen est conscient du danger, car le variant Delta qui s'est imposé partout, dit-il, change la donne.
On s'est tué à dire, les pédiatres, depuis des mois, que les enfants ne jouaient pas de rôle dans la dynamique de l'épidémie, ce qui était exactement vrai. Avec le variant Delta, nous ne pouvons pas affirmer ça. Hein. C'est des virus qui sont 2 à 3 fois plus contagieux. Qu'on envisage la vaccination des enfants avec le Delta, ça me paraît une évidence scientifique.
Évidence scientifique, mais on ne peut pas se lancer comme ça. Pour mesurer le bénéfice-risque, il faut d'abord des études cliniques sur les moins de 12 ans. Pfizer et Moderna sont en train de les conduire avec des doses qui seront vraisemblablement moins importantes que pour les adultes. Les résultats ne sont pas attendus avant la fin septembre. Si l'efficacité et la tolérance sont démontrées, alors sans doute faudra-t-il sérieusement y songer, explique Robert Cohen.
Imaginez-vous ce qui va se passer à la rentrée. Le virus rentre dans l'école, même s'il sera moins transmissible chez l'enfant que chez l'adulte, il est quand même très transmissible, donc on risque vraiment d'avoir des classes. On a un vrai problème.
On compte en France un peu moins de 10 millions d'enfants de moins de 12 ans. Un premier test aura lieu dès cette semaine avec la rentrée scolaire sur l'île de la Réunion. L'incidence y est élevée. On devrait voir assez vite si le retour en classe constitue un facteur aggravant.
Véronique, Julia et 21 172 nouveaux cas de Covid-19 ont été détectés ces dernières 24 heures en France. C'est 722 de plus qu'il y a une semaine. 399 patients supplémentaires ont été admis à l'hôpital hier.
Après la pédagogie, l'heure est au premier PV.
Une semaine après l'extension du pass sanitaire aux cafés et restaurants, policiers et gendarmes risquent de se montrer moins conciliants à partir d'aujourd'hui. Dans un premier temps, il vous en coûtera 135 euros si vous utilisez le QR code de quelqu'un d'autre et jusqu'à 6 mois de prison si l'infraction se répète 3 fois en un mois. Mais les contrôles vont aussi cibler les professionnels chargés de scanner les passes et déjà repérés la semaine dernière, ML Leclerc.
Les services du ministère de l'Intérieur, les préfets se félicitaient vendredi soir de cette semaine de rodage et surtout de pédagogie vis-à-vis du pass sanitaire. On a vite vu à quel point les clients et les professionnels ont rapidement joué le jeu, confie un conseiller du ministre. Après, dans chaque département, on a repéré les quelques récalcitrants. Ils risquent évidemment d'avoir cette fois un contrôle beaucoup moins agréable que la semaine dernière. À Paris, ce sont à peine une dizaine d'établissements dans l'hypercentre très touristique, ajoute l'un de ces policiers qui a fait beaucoup de pédagogie la semaine dernière. Et pour certains, on n'est même pas allé les prévenir. On va débarquer en ce début de semaine, c'est évident, mais on sait bien que 135 euros, ça ne leur fait pas peur. Il n'y a que la menace de la fermeture administrative qui peut les faire fléchir. C'était déjà le cas durant les périodes de couvre-feu, c'est toujours les mêmes. Par contre, la semaine de pédagogie, poursuit le même agent, nous a bien servi aussi de rodage pour savoir exactement comment on devait procéder pour verbaliser sans contestation possible. C'était pas si évident au départ, mais là, a priori, on est prêt.
Emmanuel Leclerc, et ce pass sanitaire est étendu à partir d'aujourd'hui aux centres commerciaux de plus de 20 000 mètres carrés. Cela concerne 126 galeries marchandes dans le pays.
Des armes de guerre sur le bureau du président afghan.
Triste symbole de la prise de contrôle de Kaboul par les talibans hier. Dernière étape de leur offensive éclair pour s'emparer du pouvoir en Afghanistan. Les talibans ont gagné, a reconnu le président Ashraf Ghani qui a quitté le pays avant l'arrivée des insurgés islamistes. Les démocraties occidentales prises au dépourvu organisent à la hâte l'exfiltration de leurs ressortissants. retentissant. Et l'aéroport de Kaboul, pris d'assaut par la population, est le théâtre de scènes de panique. Un porte-parole taliban a promis hier un transfert pacifique du pouvoir dans les prochains jours, mais pas de quoi rassurer les Afghans installés en France, comme Abdul Rahmani, 39 ans, qui vit et travaille à Paris depuis 10 ans. Sa mère et ses deux sœurs vivent à Kaboul. Il s'est confié à Philippe Bocara.
Abdul Rahmani a pu avoir sa mère au téléphone. Elle aussi a vu les talibans arriver.
Tout le monde est là à la maison et j'ai parlé avec ma mère. Elle m'a dit talibans, il a passé avec Batour. Après, il a parlé avec tout le monde. Il a dit maintenant c'est talibans, partout c'est talibans.
Et selon sa mère, la situation a tout de suite changé pour les femmes dans la capitale afghane.
Si la femme, elle sort, il faut qu'elle sorte avec burqa. Mais sans homme, sans burqa, c'est interdit déjà, ou sort pas.
Il n'en sait pas beaucoup plus pour l'instant. Lui a fui l'Afghanistan il y a 10 ans par crainte des talibans, car il était garde du corps d'homme politique dans une province du Nord. Son frère a fui aussi. Il était interprète pour les Américains, mais il en veut au président afghan, Ashraf Ghani.
Tout le monde il est parti, mais le président de l'Afghanistan il est parti. Il a dit « je pars pas ». Aujourd'hui, il est parti, mais il a laissé tout dans la merde.
Abdul Rahmani espère réussir à joindre à nouveau sa famille sur place si Internet fonctionne. En France, il peut compter sur la présence de sa femme et de ses 3 enfants. Ils ont obtenu leur visa en février dernier.
Philippe Bocara, Emmanuel Macron préside un conseil de défense sur la situation afghane à midi en visioconférence avant de s'exprimer ce soir à 20h, Hélène.
20 ans après avoir été chassés, les talibans de retour dans Kaboul. On en parle aussi avec nos invités dans le grand entretien sur France Inter à 8h20. La journaliste Solène Chalvon-Fioriti, nommée pour le prix Bayeux des correspondants de guerre pour son reportage Vivre en pays taliban, diffusé en juin dernier. Et puis Elie Tenenbaum, directeur du Centre des études de sécurité de l'Institut français des relations internationales. 7h37, la suite du journal avec vous, Julie Paco.
En Haïti, le bilan humain a quasiment doublé. Près de 1300 personnes ont perdu la vie après le tremblement de terre d'une magnitude de 7,2 qui a touché le sud-ouest du pays samedi. 1297 morts et déjà 5700 blessés, alors que les secours continuent leur recherche sous les décombres et que des milliers de personnes se retrouvent sans abri. L'inquiétude concerne désormais l'arrivée de la tempête tropicale Grace dans les prochaines heures et avec elle des pluies torrentielles.
Les primaires, plus jamais ça.
Cette réflexion, responsables politiques de gauche comme de droite ont été nombreux à l'avoir après les traumatismes de 2016. La primaire qui avait porté François Fillon comme candidat de la droite, la primaire qui avait désigné Benoît Hamon comme celui de la gauche également pour la présidentielle de 2017. Alors que la campagne pour 2022 a déjà débuté, seuls les écologistes ont officiellement opté pour ce mode de désignation qui refait petit à petit surface à droite comme au PS où elle risque bien de faire débat, Laurence Perron.
À droite, Annie Genevard le reconnaît sans phare.
La primaire, globalement, n'emballe pas.
La vice-présidente LR de l'Assemblée nationale sait que Xavier Bertrand est hostile. Elle compte sur l'intelligence collective.
Soit d'ici au Congrès, les choses se décantent et un candidat se dégage, et un seul. Et si plusieurs candidats se maintiennent, il faudra bien un système pour les départager.
À gauche, l'insoumis Mélenchon, Philippe Poutou pour le NPA et le communiste Fabien Roussel feront cavalier seul. Au PS, le premier secrétaire Olivier Faure veut réviser les statut pour transformer la primaire, qui est inscrite en vote des adhérents, de préférence pour Anne Hidalgo. Christophe Clergeau, son bras droit.
Renoncer à cette primaire socialiste, la remplacer par un vote des militants du PS, ensuite une discussion avec les autres partenaires au sein de la gauche et de l'écologie.
Pour l'heure, seuls les écologistes tiendront une primaire ouverte en septembre. Le ou la gagnante n'a pas vocation à concourir à la toute nouvelle primaire en date, la primaire populaire lancée par les jeunes de 2022 ou jamais, mais Samuel Gibowski, l'un des initiateurs espèrent tous les y contraindre.
Il faut créer les conditions pour au moins se qualifier au second tour, ce qui est aujourd'hui est impossible. Si Hidalgo comprend ça, elle répondra « oui, je suis candidate à la primaire populaire ».
La primaire populaire a aujourd'hui 70 000 votants. Il en faudrait au moins le triple pour qu'elle puisse peser véritablement.
Laurence Perron et Arnaud Montebourg officialisera sa candidature à la présidentielle le 4 septembre prochain. C'est une information de nos confrères de Libération. Après le gel tardif du printemps, les pluies abondantes de l'été, place au mildiou du nom de ce champignon qui a fait des ravages sur les vignes. Il aurait déjà endommagé 10 000 des 35 000 hectares de l'appellation Champagne. Les 19 000 vignerons sont donc contraints de s'adapter à cette nouvelle donne climatique et ils s'apprêtent à modifier leur façon de travailler. La profession va en effet changer le cahier des charges avec la possibilité d'introduire un nouveau cépage ou d'espacer davantage les plants de vignes, Manuel Refez.
On appelle ça des vignes semi-larges. Plus espacées, elles seront aussi plus hautes. Depuis près de 15 ans, ce nouveau modèle est expérimenté sur une dizaine de sites et les parcelles, les rendements et les dégustations sont comparés. Aujourd'hui, estime Maxime Toubar, le président du syndicat des vignerons de la Champagne, cette technique a fait ses preuves.
Notre ambition, c'est de pouvoir travailler les sols, baisser la pulvérisation de produits phytosanitaires et les désherbants. Et pour ça, il faut travailler davantage le sol, il faut tondre, il faut charruter, passer davantage avec du matériel plus adapté. Et puis on a aussi en Champagne, c'est des vignes qui sont basses, au ras du sol. Et notre ambition, c'est de pouvoir aussi rendre le travail moins pénible.
C'est une vraie prise de conscience. Il faut aujourd'hui modifier nos pratiques, soutient Maxime Toubar. Nous devons être irréprochables sur notre empreinte carbone.
Le climat ne change pas pour rien. On sait très bien aussi que nos pratiques interviennent directement sur le gaz à effet de serre, sur le bilan carbone. Donc l'ambition de la Champagne, c'est d'être toujours en avance. Donc on expérimente beaucoup. On a beaucoup de services techniques qui sont en recherche permanente pour produire mieux, avec, je le redis, le leitmotiv de la qualité avant tout.
Et la Champagne s'autorise aussi un nouveau cépage, après là aussi plusieurs années d'études, un cépage plus résistant au changement climatique et aux maladies.
Manuel Refez. Enfin Marie Darieux-Sec, Marc Duguin, Catherine Cusset ou encore Philippe Torreton.
Avant la rentrée scolaire, c'est la rentrée littéraire dès cette semaine, avec 521 nouveaux romans qui vont progressivement arriver sur les tables de vos libraires jusqu'à fin octobre. Ilana Mor-Youssef, on y parle entre autres thèmes d'environnement, d'adolescence ou de déterminisme social.
C'est une production relativement stable, à peine 10 romans de plus que l'an dernier, avec des têtes d'affiche, Amélie Nothomb, comme chaque année, Christine Angot, David Diop, Marc Duguin, qui évoque son père dans La Volonté, de même que Sorge Chalandon dans Enfants de salauds. Dans La carte postale, Anne Berest mène une vaste enquête familiale sur les traces d'arrière-grands-parents disparus dans les camps, tandis que Salomé Kinner devrait faire sensation avec Grande couronne, un premier roman sur l'adolescence en crise. Climax, de Thomas Reverdy, parle d'amour sur fond de dérèglement climatique, car les écrivains français regardent aussi ailleurs. Dans Fury, son premier roman, Julie Rouocco envoie une archéologue receleuse d'antiquités à la frontière turque. De son côté, Louis-Philippe d'Alembert signe Milwaukee Blues, inspiré du meurtre de George Floyd. Enfin, impossible de passer sous silence le livre monstre de Philippe Génada, 750 pages, où il refait toute l'enquête qui a conduit Lucien Léger en prison pendant 41 ans pour un meurtre qu'il n'a peut-être pas commis.
Ça donne envie de bouquiner. Ilana Mor-Youssef pour France Inter.
C'était le journal de Julie Paco. L'édito éco à suivre.